Non, Belgique, je m'excuse. Je crois que c'était en
Suisse.
Non, c'était pas en Suisse, c'était au Luxembourg. Et oui, c'était au Luxembourg. Il y a une dizaine d'années. Un peu plus peut-être, grosso modo. Un peu plus. C'était au moment de la sécession du Congo belge. Okay. C'est pour ça que je vous dis la Belgique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez jeune, mais enfin, si vous vous rappelez, toutes ces luttes intérieures, tribales, des différentes parties du Congo belge, enfin, c'est une histoire. Ça ne vous dit rien des noms comme ça encore, Lumbumba. Oui. Et Tchombe, c'est là. Kinshasa. Non, ça c'est pays, ça veut dire. Bien. Et alors, on avait l'impression d'une espèce de chaos d'identité pour arriver à faire un État. Donc. Et alors, il y avait un congrès de l'UMEJ, l'Union mondiale des étudiants juifs. Et c'était en traduction simultanée en quatre langues. Et donc là-haut, dans la cabine des traducteurs, c'était des goïms qui traduisaient. Pas parce qu'ils étaient goïms, parce qu'ils étaient compétents. Et alors, j'ai regardé, moi. Et à la fin, quand je suis intervenu à la fin, alors j'ai dit à l'Assemblée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, n'ayez pas pitié de ces pauvres traducteurs. Pendant 4 jours, les représentants de toutes les unions d'étudiants juifs du monde entier se sont disputés sur la définition qui est juif, qu'est-ce que c'est être juif, qu'est-ce que c'est. Les goïms, là, nous regardaient avec les yeux écarquillés. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ça ressemble au problème du Parlement du Congo belge? Et ils se sont marrés comme c'était pas possible. Mais ils étaient ahuris. Qu'est-ce que ces hommes-là? Qui passent un congrès qui coûte cher. Vous savez, un congrès de l'humain, ça coûte très cher aux Israéliens d'ailleurs, d'Afghan. Mais à se disputer pendant 4 jours, alors que c'est un peuple assiégé par tous les ennemis qu'il peut avoir au monde, pour savoir qui sommes-nous. Et à quelles conditions sommes-nous ce que nous sommes. Et il y a cette identité-là qui se pose cette question-là. Okay. Et ça, je vous le dis, que pour mettre bien en évidence que non seulement il y a l'érosion extérieure, mais il y a l'érosion intérieure. Il y a un problème de mise en doute de l'identité qui est colossal à l'intérieur de la société juive. Et cependant, ce peuple a traversé l'histoire dans une dimension d'éternité étonnante. En faisant à ce mot étonnant un accent de stupéfaction. Si j'étais goy, je serais stupéfait devant l'histoire juive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous voyez ce que je veux dire? Je serais stupéfait. Okay. Et donc, ça, c'est un point très important à mettre en évidence. C'est pas ce que je cherchais, mais si c'est ça que tu veux dire, effectivement, il y a un point important ici. Est-ce que c'est clair? Et vous verrez d'ailleurs, quand vous compulserez la littérature qui a été consacrée à ce problème, qu'énormément d'écoles idéologiques, pas forcément juive, d'école des historiens, essaye de réduire, de ramener ce fait mystérieux, la permanence juive, à des réalités banales, habituelles. Mais on n'y arrive jamais. Chaque fois, le lendemain, les faits font ressurgir qu'il y a un cas particulier. Alors là, tu as raison d'avoir mis l'accent là-dessus. Mais si je pose moi la question, et qu'est-ce qui fait ce facteur d'éternité, si tu me réponds la Torah, je suis obligé de te répondre c'est vrai et non. Oui et non. Ouais. On ne sait pas que la Torah. Bien sûr, la Torah est une des dimensions. Et encore, il faut s'expliquer qu'est-ce qu'on dit en disant la Torah. Si c'est la religion, genre le consistoire, c'est pas la Torah. Okay. Et si c'est la religion, mais ou si c'est la Torah, genre les yeshivot du ghetto, anti-israélienne, c'est pas non plus là-bas la Torah, parce qu'il s'agirait en principe de la Torah d'Israël. Okay. Donc, c'est pas si simple que ça. Vous suivez? Donnez un exemple. Pendant 2000 ans, depuis 2000 ans, il y a une entité humaine colossale, la chrétienté, qui se prend vraiment pour Israël. Je ne sais pas si vous en êtes compte. Oui, non seulement ils le disent, mais qu'ils le disent, c'est rien, ils y croient. Et alors, c'est quelque chose de stupéfiant. Stupéfiant. Des hommes de tous les pays du monde, de tous les paysages, ce n'est pas la question de paysages humains différents, qui, avec une sincérité dont vous n'avez aucune idée, se prennent pour Israël. Okay. Vous imaginez le nombre de problèmes de conscience qu'ils ont depuis l'apparition de l'État d'Israël en particulier. L'histoire leur révèle comme un choc que c'est le peuple juif qui est Israël et pas l'Église chrétienne. On n'a aucune idée du traumatisme qu'ils sont en train de vivre. Et il y a beaucoup de jours, quand je suis en symposium avec eux, je vous garantis, ce n'est pas pour faire une astuce, que j'ai pitié d'eux. Ils sont dans un drame sans issue.
Hein? C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut
le... En particulier, c'est parce qu'il ne peut pas. S'il reconnaît Israël, c'est un suicide hein? pour l'Église. C'est le suicide. Hein? Alors ils sont coincés dans un problème sans issue. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu le nazisme, il l'aurait fait. Mais comme il a déjà existé, il ne peut pas le refaire. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a aucune idée du nombre de théologiens chrétiens qui ont dit ouf quand ils se sont aperçus que les nazis voulaient annuler le peuple juif. D'autres ont dit non, il ne faut pas le faire. Je vais être objectif, okay? Mais le plus grand nombre ont dit ouf, laissons-les faire. Parce que nous, on ne peut pas faire ça quand même comme ça. Les croisades, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'existence du peuple juif comme tel, jusqu'avant l'État d'Israël, c'était une espèce d'épine dans la théologie chrétienne dont ils ne se sont jamais sortis. Sinon, en nous mettant une croix dessus. Quoi. Mais ils l'ont d'abord mis sur la croix et après la croix dessus. Mais depuis l'existence de l'État d'Israël, vous n'avez aucune idée du choc que ça a pu avoir pour la conscience chrétienne. Et alors là, nous avons ici un espèce de volcan qui n'a pas encore éclaté, une espèce de tremblement de terre qui n'a pas encore eu lieu, mais qui inévitablement un jour éclatera. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, vous avez des hommes chrétiens, dans la cohérence de leur bonne foi, eh bien, qui affirment tout simplement de l'Église chrétienne ce que nous affirmons, nous, de l'histoire juive, c'est-à-dire cette espèce de caractère surnaturel de la permanence. Parce qu'après tout, 2000 ans de christianisme, dans une diffusion aussi colossale, à partir d'une secte, c'est quelque chose d'énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça ne vient pas de rien, tout ça. Alors, il faudra que nous comprenions d'un point de vue juif, qu'est-ce que représente l'Église par rapport à Israël. Et on y arrivera. Seulement, nous sommes privilégiés, parce que nous avons une réponse. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'Église par rapport à Israël? Mais eux n'ont pas de réponse à la question qu'est-ce que c'est que le mystère d'Israël par rapport à l'Église. Vous suivez? Sinon, une réponse négative. Les déicides. Vous comprenez? Et comme ils ont vu ce que le déicide amène, nazisme, etc., alors ils sont tellement épouvantés des conséquences de l'antisémitisme théologique chrétien qu'ils ne peuvent pas porter atteinte, en qu'ils ne peuvent pas collaborer à l'antisémitisme. Vous suivez? Alors essayez de comprendre le drame que peut représenter pour l'Église chrétienne l'existence de l'État d'Israël. C'est une gifle de la Providence à son vicaire. Alors je vais vous dire, au niveau des cas particuliers, tous les paradoxes sont possibles. Au niveau des cas particuliers, toutes les contradictions sont vécues. À l'échelle existentielle, si vous voulez, la personne humaine est le lieu de tous les paradoxes possibles et imaginables. Okay? Mais à l'échelle du problème lui-même, eh bien, il n'y a pas de réponse possible de la hiérarchie chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante d'ailleurs, sans mettre en question les fondements de la théologie chrétienne elle-même. C'est pourquoi il y a énormément de chrétiens qui admettent que c'est vraiment le peuple de Dieu, le peuple juif, et que le fait qu'ils soient revenus à Jérusalem, c'est vraiment providentiel, etc., etc., mais ils sont hérétiques par rapport à l'Église officielle. Et à l'échelle individuelle, il y en a beaucoup comme ça. Je donne un petit exemple. Vous savez, le mois dernier, l'ONU a décrété que jamais de la vie que Jérusalem ne peut pas être considérée comme la capitale d'Israël, et que par conséquent, elle a demandé à toutes les ambassades de quitter Jérusalem. Vous savez cela? Bon. Il y avait à l'époque, à Jérusalem, donc encore le mois dernier, 13 pays, surtout d'Amérique du Sud, plus la Hollande, je pense, qui avaient leur ambassade à Jérusalem. Et alors, les 13 pays, comme un seul homme, ont dit d'accord, et bien on s'en va, ils sont partis, ils sont descendus à Tel Aviv, voyons, peu importe. Jérusalem a été purifiée de leur présence, si j'ose dire. Et je parle des ambassades. Et alors, voilà. Regardez l'événement. Okay? Le monde entier se retire. On dit oui, se retire de Jérusalem. Ça a des allures énormes. Et les Israéliens, avec beaucoup d'humour, ont écrit au secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim, pour lui dire qu'après tout, si effectivement l'ONU ne considère pas Jérusalem comme la capitale d'Israël, au point qu'elle a demandé à tous les pays de l'ONU de quitter Jérusalem, pourquoi l'ONU elle-même ne quitterait pas Jérusalem? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas compris l'humour. Regardez les contradictions de l'ONU. Le siège de l'ONU reste à Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas... Bon, alors... On pourrait installer Maya non plus. Ben, je dois dire que tu m'as donné une idée. Et alors, à ce moment-là, il y a des organisations chrétiennes qui ont décidé de faire venir une délégation de 13 pays de religion chrétienne pour, ça s'est passé à Sukkot, pour faire le pèlerinage de Sukkot avec les Juifs et fonder une ambassade de l'amitié chrétienne à Jérusalem, qui s'est fondée donc à Sukkot. Et l'année prochaine, ils ont l'intention de fêter Sukkot et de construire des Sukkot à très grande échelle à Jérusalem. Et symboliquement, ils ont amené 13 délégations. Et ce qui est extraordinaire, ça veut dire qu'on vit des choses inouïes. Et 13, Davka, on ne commençait pas à avoir des cauchemars. Et alors, c'est des coïncidences tout ça. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'Aftara de Sukkot, Davka, dans Ézéchiel, dit que toutes les nations du monde fêteront la fête de Sukkot. Et Ézéchiel, il y a 2000 ans. Alors voilà, on y est. Vous connaissez cet Aftara? Bon. Et alors, vous voyez que c'est les prophètes. T'as pas entendu parler de la guerre de 48? Tu vois, les diagnostics de l'histoire, il faut des spécialistes. Hein. Je vais te dire, je vais te répondre comme les universitaires. En réalité, on n'en sait rien, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, ne faites pas de la prévision prophétique. Hein. Vous risquez vraiment d'avoir des cauchemars. Alors, il y a eu donc en 48 que la ville était divisée en deux. Oui. Bon, alors espérons que ce soit que ça. Ça va? Donc. Quoi, tu veux pire? Et alors, là, vous avez remarqué cela que Berlin est divisé en deux. Et pourtant, des deux côtés, c'est des Allemands. S'il y avait vraiment une ville qui aurait dû être divisée absolument, si déjà, c'était Jérusalem avec d'un côté les Arabes et de l'autre côté les Juifs. Mais Dafkassel allait réunifier contre le monde entier. Alors que Berlin pourrait être réunifié, c'est elle qui reste. Et est-ce que c'est par hasard que c'est Dafka Berlin qui coupait en deux et pas Jérusalem? Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai rien dit. Hein. Non, vous savez ce que je veux dire en disant Berlin? Les Allemands, Dafka. Et alors, il y a les berlingots sucrés et les berlingots pas sucrés. Mais vous ne connaissez pas toutes ces tribus, là, les Goths, les Visigoths, les Berlingots, les Ostrogoths. Bon. Ça y est, on a entendu. Et il dit ça à tous de Goths, comme ça. Bien. Alors.
J'ai l'impression que les chrétiens dématérialisent un peu Israël. C'est-à-dire, bon, ils ont l'impression de dire qu'Israël, enfin le peuple juif, s'est attaché à une Israël matérielle, alors que c'est un Israël spirituel. Eux, ils ont l'Israël spirituel.
C'est ça. C'est ça. Seulement voilà que 2000 ans après, l'histoire opère sur cet Israël matériel comme s'il y en avait que c'était le seul.
Ils continuent à penser qu'ils se trompent, enfin, ils sont en train de créer un peuple.
C'est beaucoup plus profond que ça. Eux croient à la providence. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien c'est vraiment la providence qui travaille, alors ils sont disqualifiés. Ils y croient à la providence. Ou bien c'est Satan qui travaille, et alors il faut détruire ça. C'est pourquoi nous sommes en danger. Vous voyez qu'ils résonnent exactement comme les Netour et Carta. Et remarquez ça. Comme les barbus. Bien. Non, j'explique, parce que parenthèse dans la parenthèse, leur problème de conscience est tel que s'il n'y a pas de solution rapidement, nous sommes en danger. Parce que la chrétienté, c'est un monde colossal au point de vue nombre, potentiel, puissance, etc. Et ils ont un problème d'identité que l'histoire leur a envoyé à la figure depuis le temps du nazisme, y compris l'État d'Israël. D'abord, voilà ce qu'a fait l'antisémitisme du déicide. C'est allé jusque-là. Et je vous garantis que le traumatisme des chrétiens de bonne foi est très profond. Et deuxièmement, l'histoire ressuscite la nation israélienne alors qu'il était évident, surtout après l'habitude de 2000 ans, que les juifs étaient condamnés à l'exil perpétuel pour témoigner de ce qu'il arrive des déicides. De ceux qui ont refusé le vrai Messie. Or, ces hommes croient à la providence de l'histoire. Vous comprenez ce que je dis ? Ça veut dire que de deux choses l'une, ou bien ce qui est arrivé pour le peuple juif, qu'il n'a pas été anéanti, et qu'il a ressuscité comme nation, c'est la providence qui fait ça. Alors le christianisme, c'est quoi ? Ou bien, c'est pas Dieu qui fait ça, alors c'est Satan. Enfin, comme ils disent, eux, le diable. Mais si c'est une œuvre du diable, alors il faut aider les Arabes à annuler cela. Vous voyez pourquoi Israël est en danger par rapport à des problèmes non résolus. Tant que ce problème ne se résout pas, eh bien, il y a un énorme point d'interrogation en déséquilibre. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, malheureusement, il ne semble pas que les chrétiens aient les moyens, je ne dirais même pas de résoudre le problème, mais de savoir comment il se pose. Vous voyez ? Et que par conséquent, il est bien évident que nous avons un devoir de les aider à y voir clair. Mais malheureusement encore, si vous voulez, le problème est posé au niveau des amitiés judéo-chrétiennes de manière absolument masquée, enfin, faussée. Okay ? Bon, tous ces problèmes-là, on les retrouvera en cours de route. Je vais essayer de vous éclairer un peu sur la manière dont je perçois un peu ces problèmes-là. Vous verrez qu'il y aura énormément d'exemples. C'est qu'il faudra nous habituer très rapidement à penser les positions du judaïsme par rapport à toute autre chose dans le monde à l'intérieur d'un monothéisme absolu, à l'intérieur d'un monothéisme cohérent. Nous sommes des monothéistes. Je parle d'Israël. Okay ? Et ça veut dire qu'il y a un seul Dieu qui gère l'histoire du monde entier. Et que par conséquent, les chrétiens aussi, en tant que tels, et quelles que soient leurs erreurs, entre guillemets, sont des créatures du bon Dieu, tous les hommes. Okay ? Que par conséquent, il est bien évident que si notre Torah, c'est la Torah du Dieu unique, monothéiste, okay, elle a l'explication de ce qui se passe chez les autres. C'est pas que Dieu s'occupe que de nous et les autres qui. Vous suivez ? Est-ce que c'est clair ? Vous comprenez ça ? Vous verrez qu'énormément de problèmes doivent se ranger dans cette catégorie-là. Et ça va nous obliger à nous hausser dans la position de ces problèmes, à parfois des niveaux qui donnent le vertige. Okay ? Et ça signifie qu'il est bien évident que la Torah a une explication sur qu'est-ce que c'est que le christianisme. Seulement voilà, le christianisme n'a pas d'explication sur qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Sinon, ce que nous appelons en langage de théologie, une théologie négative. C'est-à-dire que depuis l'apparition du christianisme, eh bien, une mise en question négative de la permanence du fait juif. Le chrétien considère que la permanence du fait juif est providentielle, mais dans une théologie négative. C'est-à-dire qu'il faut que le témoin de l'échec reste dans l'histoire. Nous, juifs, selon eux, témoignons de ce qu'il arrive à qui refuse leur Messie. Vous voyez le problème ? Est-ce que c'est clair ? Vous voyez ? Vous comprenez ce que c'est, une théologie négative ? C'est-à-dire que le christianisme, la chrétienté, disons, pas le christianisme comme doctrine, la chrétienté n'avait que deux solutions possibles, ou annuler les juifs, et alors on peut dire tranquillement Ancien Testament, Nouveau Testament. Hein, après on aura oublié qui a annulé les juifs, qui se rappelle qui a annulé les Arméniens. Bon, on sait que c'est les Turcs, mais qui c'est ça les Turcs ? Oui, ça va vite cette histoire-là. Bon. Et, ou bien, qui a éliminé les Indiens d'Amérique ? On sait que c'est les Blancs d'Amérique. Mais qui raisonne avec un blanc américain, surtout quand il se permet d'être anticolonialiste chez les autres, qui raisonne comme ça à ce niveau-là, vous avez nettoyé l'Amérique de ces Indiens. Vous vous rappelez de ça, ça s'oublie, toutes ces choses. C'est clair, vous comprenez ? Bon. Et par conséquent, on aurait pu penser une histoire où la chrétienté est devenue religion de l'Empire romain, eh bien Rome devenue chrétienne, se serait arrangé pour annuler le peuple juif, ce que Hitler a voulu faire. Hein ? Et Hitler est sorti du même empire, bien. L'Empire, comment on appelait ça ? Le Saint-Empire romain-germanique. Okay ? Vous vous rappelez que Hitler et Mussolini, c'est Rome et Berlin, ça recommence. Okay. Et alors, le Saint-Empire romain germanique, hein, tout ça. Et alors, première solution, elle n'a pas marché. Alors la deuxième solution, c'est qu'il faut donner une explication à la permanence du fait juif. Et surtout avec l'indice diaspora, dispersion, exil. Et bien ça, c'est ce que je vous appelle la théologie du judaïsme dans le christianisme. C'est-à-dire la doctrine théologique chrétienne sur le judaïsme. C'est ce qu'on appelle en jargon théologique le fait qu'ils n'ont qu'une théologie négative. C'est-à-dire que la fonction des juifs devient négative. Elle consiste à témoigner de la malédiction qui porte sur les déicites. Vous voyez ? Et par conséquent, ils ont une explication de la permanence providentielle du fait juif. Mais tu ne connais pas l'histoire juive ? C'est une histoire de persécution, justement, j'y arrive. Enfin, jusqu'à présent, c'était clair pour eux. Le juif, vous voyez pourquoi les chrétiens, sauf les cas individuels d'émotion personnelle, le chrétien comme tel ne peut pas s'émouvoir si un juif souffre. C'est pour la grande gloire de leur Seigneur. Vous suivez ? Bon. Et alors, quand un chrétien souffre de ça, c'est en tant qu'humaniste, pas que chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et alors, combien de cardinaux, au moment du nazisme et de Pétain, ont écrit des textes que nous avons dans les archives, qu'après tout, eh bien, c'est Dieu qui le veut. Vous comprenez ? Parce que ça sort des évidences de la théologie chrétienne. Alors, n'exagérez pas, messieurs les nazis. Okay ? N'exagérez pas. Mais sachez que nous, on n'est pas contre. Vous voyez le problème ? Alors qu'il y a d'authentiques prêtres, jusqu'à des cardinaux, qui sont allés dans le maquis, qui ont dit juste non, ça, non. Mais ça, c'est une réaction individuelle. Et l'Église court et se réclamait de ça et de ça. Vous savez comment l'Église fait. Okay ? Elle envoie toujours des prêtres à Jérusalem juifs, des prêtres à Jérusalem arabes, chacun son travail, et puis de telle sorte qu'elle puisse dire eh oui, et les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Bon. Et alors, arrive l'État d'Israël. Okay ? Alors là, les choses sont plus graves. Pour l'Église. Là, il n'y a pas d'issue. Pourquoi ? Parce que, ou bien, c'est la providence divine qui a fait l'État d'Israël. Ce que les sionistes croient. Et il y a des chrétiens qui, à l'échelle individuelle, croient ça aussi. Et ils ont plein de problèmes avec leur Église. Alors, ils se consolent en disant, oui, mais le pape, c'est un imbécile. Enfin, quand on est chrétien orthodoxe, le pape, c'est pas un imbécile, il est infaillible. Bon, il est infailliblement imbécile, c'est autre chose. Vous suivez ? Ils ont des problèmes terribles. Donc, et ils savent très bien que quand ils discutent avec les rabbins, ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir en disant « Ah oui, évidemment, mais vous savez, les hommes, les Romains, les Italiens, à nous, ils ne peuvent pas dire ça, parce que nous connaissons leurs croyances. Et que nous savons que d'après leurs croyances, à partir du moment où le pape a sa soupape, là, je ne sais pas comment on appelle ça, non, ça doit être un surpape, ça. Ça tient, oui. Et en aile de papillon. il est infaillible d'après les dogmes de l'Église. Vous comprenez ? Alors, ils ne peuvent pas nous raconter à nous. Ils ne peuvent pas nous raconter à nous qu'un homme infaillible au niveau du sacré peut être un imbécile au niveau du diagnostic de l'histoire. Il n'est pas imbécile. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'est clair ? Seulement les chrétiens. Et alors, là, vous voyez le drame de conscience. Ou bien c'est la providence qu'a fait l'État d'Israël. Okay ? Alors l'Église, ça n'existe plus. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans d'erreur. Et c'est à nous de ramasser les morceaux, leur expliquer ce qui leur est arrivé. Okay ? Vous suivez ? Et c'est ce qui va arriver, d'ailleurs. Ou bien c'est le diable qui fait ça. Alors si ils sont convaincus que c'est le diable qui fait ça, nous sommes en danger. Et ça vous explique l'alliance contre nature entre la chrétienté et l'islam contre Israël. Vous voyez où ça va ?
Pourquoi ils considèrent quand même le peuple juif comme peuple élu ?
Parce que nous sommes... Non, il était élu jusqu'à l'arrivée du... Bon. Mais non. Et alors, s'il l'avait reconnu, eh bien, il aurait continué à être le peuple élu. Bon. Seulement, ils l'ont refusé, les Juifs. Alors, ils ont été déchus. Et pourquoi ils restent dans l'histoire ? pour témoigner de ce qui arrive de la. Voilà, tu vois, je parlais de malédiction. C'est clair ? Oui, mais comme ils ne peuvent pas quand même, alors la solution la plus immédiate à leur portée, c'était la position inférieure des juifs, ce que j'appelle théologie négative. Vous êtes par antiphrase, vous êtes par la preuve par l'absurde que nous les chrétiens nous avons raison. La preuve, c'est le sort que vous avez dans l'histoire. Pourquoi votre exil ? Pourquoi votre sort dans l'exil ? À cause de ce que vous avez fait au crucifié. Vous y êtes ? Tout ça c'est plein de mensonges, tout ça c'est faux. Mais pour essayer de vous expliquer la cohérence de leur position. Et pourquoi l'État d'Israël est en danger tant que la conscience chrétienne n'arrive pas à s'épurer, à se purifier. Ça, du côté chrétien. Avec l'islam, nous avons encore une autre problème. Bon. Et oui, ne serait-ce que ça. Je reprends toujours, journaliste, à ton principe. Cette permanence elle-même pose une question. Et à l'intérieur même de cette permanence, un point, pas de détail, mais convergent, divergent, enfin convergent, c'est, est-ce que vous imaginez le petit nombre de juifs en Israël face à une telle coalition ? Est-ce que vous imaginez ça ? Bon, là aussi c'est une dimension mystérieuse, comment on fait, j'en sais rien. Avec en plus le balagan intérieur qu'il y a dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez que c'est balagan, okay ? Bon, vous savez déjà, vous voyez ? Alors, vous comprenez, tout ça vous montre que, on le fera parce qu'il faut le faire, vous appreniez ces choses-là, c'est très difficile de réduire le fait Israël, le fait juif, à un fait sociologique habituel. Seulement, comme il est là, il est dans les faits, il est dans la réalité, alors on croit qu'il est naturel, comme un peu le goût de l'eau, vous vous rappelez ? Le goût de l'eau est là, alors donc c'est que ça va de soi, c'est naturel, pas naturel du tout. Alors, phénoménal, ce que je voudrais éviter pour toute l'année, mais j'en profite de cet exemple pour ouvrir une parenthèse, ne tombez pas dans des dévoiements mystiques. Vous allez apprendre des choses profondes, vous allez découvrir des apparences mystérieuses. Ne tombez pas dans la conscience mystique. En tout cas, à votre âge, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. C'est-à-dire avoir une approche mystique de ces réalités-là. Et la mystique, si elle n'est pas portée par une connaissance que vous n'aurez pas maintenant, par une connaissance de la tradition mystique authentique, la Kabbale, c'est du désordre psychique. Et je voudrais être très clair, hein. Faites bien attention à cela. Et ça, je vous demande vraiment instamment, si à l'échelle individuelle, vous ressentez personnellement, que vous avez une approche un peu mystique de ces problèmes, venez me voir au bureau, hein, tout de suite. Est-ce que c'est clair ? Parce que sinon, vous risquez de tomber malade. Ça, je vous dis à l'avance. C'est-à-dire, si vous avez une solidité intellectuelle suffisante, alors on peut aborder ces choses-là. Mais si vous le ressentez avec une sorte d'expérience religieuse ou spirituelle de type mystique, c'est pas sain. Et n'hésitez pas à venir me voir personnellement, mais pas en classe, pas en public, vos questions, pas en public. Est-ce que c'est clair, ce que je dis là ? Et je voudrais vous signaler parfois des associations d'idées que je refuse, parce que ça fait genre signe mystérieux. Vous voyez ce que je dis ? Quand on prend acte d'une signification de analogie, relation, affilou, même coïncidence, on pense ça intellectuellement. Mais prendre un air mystérieux pour dire « Ah là là, il y a quelque chose... » Attention, ça, il faut diagnostiquer tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce que c'est clair ? Ne jouez pas à ça. Parce que c'est tout simplement une maladie mentale d'être mystique à votre âge. J'ai besoin d'un exemple pour... Mais si, croyez-en mon expérience. Hein. D'ailleurs, je sais que j'ai la réputation d'être mystique, alors d'autant plus que vous compreniez ce que je vous dis là. Okay ? D'une part, c'est faux, en tout cas dans ce sens-là, et d'autre part, si c'est déjà moi qui vous dis cela, rassurez-vous. Ça y est, c'est clair. Bon. Je vous donnais un exemple. J'avais un professeur de lettres quand j'étais au lycée. Il a dit quelque chose qui restait dans ma mémoire. Dit quand on fait des vers, on écrit des poèmes à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on écrit des poèmes à 40 ans, c'est que peut-être on est poète. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des expressions de l'âge, de la jeunesse, et vous avez de la chance d'être encore très jeune. Ne gaspillez pas votre jeunesse, c'est irrattrapable. Enfin, jusqu'à un certain âge, vous pouvez aller jusqu'à 70 ans, mais pas plus. Et c'est Tintin qui était de...
77.
Ouais, 77. Les Belges sont précoces pour retomber en enfance. Et alors là... c'est bien belge, ça, Tintin, non?
Oui.
Sois belge, tais-toi. Et alors... là... j'ai insulté personne. En principe, il n'y a que des juifs, ici. Et alors... Et alors, là, après, je vous raconte une histoire belge. qu'est-ce que je disais avant de faire du lâchement avec les Belges?
Oui. Cette question d'âge.
Oui, oui. C'est-à-dire, comprenez bien ce que je dis là. Quand on est mystique à 17 ans, ou à 25 ans, je sais pas, c'est qu'on a 25 ans. Si on est mystique à 70 ans, c'est que peut-être on est mystique. Peut-être encore, c'est pas sûr. Faut voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est clair? Alors sachez que il y a des conduites psychiques intérieures qui se font prendre pour de la mystique authentique et qui ne sont que des désordres psychiques. Vous voyez, c'est clair? Faites bien attention à ça. Et si vous avez, je parle à personne en particulier, okay, mais si vous avez des problèmes de ce genre, venez m'en parler en privé. Mais tu viendras me parler. On en parlera au bureau. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Pas encore. je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Non, pas à vous. Peut-être. Il m'arrive assez souvent des gens qui viennent me voir, rien à voir avec vous, hein, et qui viennent m'expliquer gentiment qu'ils sont le Messie. Bon, ça arrive. Le Messie, top. En général, ils prennent des précautions de langage, ça dure des heures, finalement, ils avouent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai pas besoin. Et alors, en général, quand ça va bien, une heure après, ils ont l'adresse d'un médecin, et puis trois mois après, ça s'arrange. Mais vous n'avez aucune idée le nombre de gens et qui se prennent pour Napoléon, par exemple. Okay. Bon, alors il y en a un pour qui ça réussit, il s'appelait Bonaparte. Mais les autres, ils sont malades. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, alors je vais raconter une autre histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il n'y a pas que le Messie. Il y en a un qui se prenait pour le roi David. Qu'est-ce qu'il se prenait? Il était le roi David. Alors il vient, je ne raconterai pas comment ces gens arrivent chez moi, mais enfin, ils arrivent. Alors il vient, et après de longues précautions de langage, alors il commence à avouer. Bon, je sais que vous pouvez comprendre ces choses-là, et bien voilà, je suis le roi David. Alors, il avait l'air plus inquiet que moi. Enfin, moi, je n'étais pas du tout inquiet, j'ai l'habitude. Et bon, chez les filles, c'est d'autres personnages, mais enfin, chez les garçons, il y a 4 ou 5 cas de ce genre, dont le roi David. Et alors je lui dis, ben c'est très bien, ça fait des années qu'il y a un verset des psaumes que je n'arrive pas à comprendre, tu vas me l'expliquer. Alors il me dit, quoi, il faut que je sache aussi les psaumes? Et alors, t'es le roi David ou t'es pas le roi David? Bon, c'est comme ça que ça commençait à s'arranger. Mais, c'est-à-dire, il y a des traumatismes psychiques qui font qu'on a de ces expériences de confusion des réalités. C'est ça la mystique dans le sens négatif. Vous comprenez? Et de fonctionnement de conscience magique. Alors faites bien attention. Les connaissances que vous devez apprendre en judaïsme, vous devez les faire passer par l'intelligence. C'est votre âme qui comprend, mais à travers l'intelligence, pas à travers des intuitions vaporeuses, d'analogies plus ou moins vagues, et que la preuve qu'un cheval c'est un âne, c'est qu'un âne c'est une carotte, comme une carotte c'est le soleil, donc je suis le Messie. Mais comment ça va ? Alors en tout cas, je vous avertis. Non, je vous avertis très charitablement, enfin je veux dire gentiment, mais je parle de choses sérieuses. Ne plaisantez pas là-dessus. Si vous avez tendance à supposer que vous avez une conscience de ce type-là sur certains phénomènes, la mystique, j'entends bien que beaucoup ne comprennent pas le mot, mais vous comprenez la chose dont je parle. Okay ? Venez me voir, c'est tout, un point. Mais mélangez pas ça au cours. Hein. D'accord ? C'est
l'air. Qu'est-ce que c'est la vraie mystique ?
Ah, la vraie mystique. Quand tu auras 70 ans, on prend rendez-vous et je t'explique. Bien.
Et chez certains mystiques, ça s'est déclenché assez jeune, bon, les 5, 2, 3 ans, 2 ans. C'est quelque chose de naturel, vous en aviez parlé.
Donne-moi un exemple.
Religion naturelle. Je sais pas, enfin, j'ai
ah, la religion naturelle. Bon, mais ça, c'est
non,
pas
non, non, mais c'est le mysticisme, en fait, cet élan vers...
Cette religion naturelle, elle peut être mystique, elle peut être pas mystique. Je vais vous dire, là, ce que je vise dans cet adjectif, c'est la confusion mentale qui se fait prendre pour la pensée profonde. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, des associations d'idées non contrôlées par l'intelligence. Un état de rêverie qui se fait prendre pour de l'illumination prophétique. Méfiez-vous de ça.
Je parle pas de ça.
Non, je sais, j'en profite. Okay. Mais donne-moi un exemple chez les Juifs, par exemple.
Je sais pas, je connais moins bien.
Non, je ne vous demande pas de me parler des personnages mythiques. Bon, quand on étudiera la question du christianisme, vous saurez qu'il s'agit d'un mythe. Okay. Pas n'importe quel mythe. Mais c'est un mythe, et nous sommes anti ce. Un exemple, c'est qui tu pourrais appeler mystique depuis son jeune âge ? Qui ? Par exemple, Shabbatai Tzvi ? Oui. Eh bien, vous savez que quand il a terminé de perdre sa bataille, Et il s'est avéré qu'il était malade.
Tant que j'ai associé ça avec ce que vous aviez dit sur la religion naturelle, enfin, oui. C'est-à-dire sur un développement interne d'une certaine hormone, ce que vous avez employé. Bon, et en plus, vous avez dit que c'était quelque chose d'authentique, enfin, chez Sabia Dalia ou chez des personnes. Ce que vous avez cité.
Sincère, en tout cas. Oui.
Je pensais, en tout cas, ça s'est arrivé à des personnes, bon, si on voit Saint-François d'Assise à 20 ans, ou Saint...
Écoutez, je comprends ce que tu dis. Bon, c'est peut-être un autre emploi du mot mystique. C'est-à-dire qu'ils étaient fervents. Mm-hmm. Et c'était des hommes et des femmes de très grande valeur humaine, de très grand niveau, et de grande envergure. Mais ils n'ont pas joué à ces petites correspondances de signes mystérieux qui font que... Et c'est pourquoi je ne veux pas du tout porter un jugement pathologique sur des êtres de ce genre. J'ai dit que c'était impur par rapport à la Torah. C'est impur, cette religion naturelle, surtout lorsqu'elle est si élaborée. Et d'accord que dans le vocabulaire, on appelle ça le mysticisme. Mais je pense que vous avez compris que je parlais de choses d'un autre ordre. Bon. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre un principe. C'est qu'il n'y a pas de doute que l'être collectif d'Israël est une réalité supranaturelle. Bon, ça vous habituerez toute l'année à le comprendre. Mais je parle de l'être collectif d'Israël, de la nation d'Israël comme telle. Okay ? Se prendre individuellement pour l'incarnation de cette réalité, Et ça arrive à beaucoup plus, une maladie juive. Premièrement, c'est un manque d'humour. Et c'est grave, le manque d'humour. Et deuxièmement, c'est ça, la pathologie dont je parle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je répète. On l'a découvert par ce premier exemple concernant l'histoire d'Israël. Et je vous demande instamment de ne pas mélanger les cours. Okay. Par exemple, j'ai demandé personnellement à Abraham Golek de vous enseigner les autres analyses non religieuses, non traditionnelles, d'explication de l'histoire juive et des phénomènes. Ne perdez pas de temps à lui objecter quoi que ce soit. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous faire comprendre les autres chitos, les autres méthodes. Ce que je vous dis, mais je n'ai même pas besoin de vous le dire, vous le percevez, c'est que la réalité de l'histoire juive, hébraïque, juive, d'Israël est telle qu'on n'arrivera jamais à la réduire à des dimensions d'une autre société, des lois habituelles d'une autre société. Par exemple, ces deux cas, la permanence, qui est fantastique, Ken, et deuxièmement, la résistance. Parce qu'il y a ici 3,5 millions de juifs dans le pays qui portent le monde entier contre. Ken, vous suivez? Et c'est inouï, personne n'arrive à se rendre compte qu'elle a un mystère. Ken. C'est là qu'on a débouché sur les problèmes de mystère. Ken. Alors, méfiez-vous. N'intégrez que des connaissances claires pour l'intelligence. Ce n'est pas les mêmes que celles des rationalistes abétis, infantiles, primaires, et parfois ils sont même primaires supérieurs. Ken. Mais vous connaissez les écoles primaires supérieures. Ken. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des conceptions magiques. Il faut comprendre la réalité lucide profondément, mais pas magiquement. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors, de quoi je parlais juste avant? Rappelez-moi. Mmh. Oui, ce que je disais, c'est ceci. Il est bien évident que ce qui va nous apparaître, c'est que l'entité collective Israël, à travers le temps et l'espace, c'est un phénomène surnaturel. Bon, et je regrette ce terme. C'est que je n'ai pas eu de mots plus précis à la bouche, Ken. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un phénomène qui ne se laisse pas réduire à la réalité des autres, quel qu'il soit. Il y a un cas à part. Bon. Et beaucoup de mystiques chez les goïms le savent, Ken. Mais qu'un individu se prend pour la récapitulation de cet ensemble collectif, c'est ça la folie. Okay. C'est ça la folie. Okay. Quelqu'un qui se dit, qui pense sa vie, sa destinée individuelle, comme si l'histoire l'avait attendu pour qu'Israël enfin existe quelque part, et puis les autres, c'est des figurants qui sont en plus. Okay. Ça, il y a un trouble psychique. Et en général, c'est un problème de relation avec les parents qui ne s'est pas élucidé dans la première enfance. Ça se soigne. Et ça se soigne en quelques semaines. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Sachez-le une fois pour toutes. Okay. Que si vous avez une tendance, n'en parlez à personne qu'à moi, mais si vous avez, secret professionnel, mais si vous avez une tendance, une fois dans votre vie, à vous être pensé comme ça, venez m'en parler. Est-ce que c'est clair? Je regarde personne, hein, puisque je regarde tout le monde. Ça y est, c'est clair? Bon.
Quand vous avez posé la question pourquoi la permanence d'Israël, la réponse c'est un phénomène surnaturel.
Mais j'ai pas dit ça. On sait pas encore. J'ai pas dit ça. L'impression que donne cette découverte de la permanence, c'est effectivement un phénomène qu'on ne peut pas expliquer par les doctrines habituelles qui traitent des sociétés humaines. Donc, disons, et tout de suite j'ai rattrapé le mot, mais enfin je te le rends, surnaturel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre. Mais on ne peut pas comprendre par les lois habituelles que connaissent les historiens, les sociologues. Il faut se référer à la tradition hébraïque. Est-ce que c'est clair? Bon. Et ce que j'ai ajouté, c'est que ça a une dimension colossale, Israël, à travers l'espace et le temps. Que quand un individu d'Israël se met en exposant avec cette collectivité comme telle, eh bien, c'est qu'il est malade. Il n'y a qu'un juif qui peut être malade comme ça, mais c'est ce juif-là qu'il faut soigner. C'est clair? Bon. Et c'est cette histoire qu'on nous raconte dans le mythe chrétien, okay, qu'Israël s'est devenu un X. Okay. Et ça, c'est a priori extérieur au judaïsme. Ça ne peut pas naître dans le judaïsme une histoire pareille. Sinon, à l'asile. Est-ce que vous comprenez le problème? Parce que ça, même si je mets un an pour vous le faire comprendre, Israël, c'est une nation. C'est pas monsieur un tel ou monsieur un tel ou monsieur un tel. Vous suivez? Bon. Alors je reviens que, parce que la Bible ne parle, en parlant d'Israël, la Bible parle du peuple d'Israël, pas monsieur X ou Y, même s'il s'appelle Israël par hasard. C'est jamais par hasard, mais commencez pas à faire de la mystique. Et alors, l'exemple que je voulais vous donner, c'est le suivant. C'est que, bien entendu, je voudrais que vous le compreniez profondément. Je ne crois pas que la conscience chrétienne, et pour ne parler que de ce problème-là, parce qu'il y a aussi la conscience musulmane, il y a la conscience marxiste, tout ce que vous voudrez, par rapport à Israël. Je ne crois pas que la conscience chrétienne arrivera à se sortir de son problème si les juifs ne l'aident pas. Et ce n'est pas encore le cas, on n'est pas arrivé à ce stade. Mais il y a là un niveau de responsabilité vis-à-vis des juifs qui est très grave, par rapport aux juifs qui est très grave. Alors de ça, je vous parlerai dans d'autres sujets, mais pour arriver à ce point, c'est qu'il est bien évident que par définition, à l'intérieur de ce monothéisme cohérent dont je vous parle, que par définition, la Torah doit comporter l'explication de ces phénomènes, surtout lorsqu'ils rentrent en rivalité avec Israël, jusqu'à se nommer Israël.